Chaque mercredi entre 16h et 16h30 sur Radio Campus Lille 106,6 FM, vous avez rendez-vous avec Lille Info, un magazine de Radio Campus réalisé en partenariat avec l'Université Lille 1, une émission qui vous informe sur la vie, les études et les grands axes de la recherche universitaire.
Les auditeurs du 106,6 sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est Musique au pied qui prolonge son bonhomme de chemin avec Shakti de John McLaughlin, les années 70, ou est-ce que, en fait, c'est bel et bien Lille 1 Info, mais René a une voix un peu plus juvénile, bien qu'en fait René soit un éternel jeune qui nous épate quotidiennement, hebdomadairement devrais-je dire, en fait, à la radio, sur le 106,6. Eh bien non, chers autrices, chers auditeurs, je relève le défi de remplacer au pied levé en fait l'ami René, qui est parti par Mons et par Vaux de l'autre côté de la planète en fait pour vaquer à ses occupations, et on lui fait bien sûr de gros gros bisous ainsi qu'à sa chère et tendre épouse. Vous êtes bien à l'écoute sur 106,6, c'est bel et bien Lille 1 Info, Doc Map pour remplacer René, et aujourd'hui nous sommes en compagnie de nos deux invités pour vous parler en fait dans le cadre des journées académiques avec l'IREM de art et mathématiques, et notamment de jazz, musique indienne et mathématiques, d'où ce petit clin d'œil à votre travail, messieurs. Vous allez pouvoir vous présenter en quelques secondes. Donc, sur ce qui attend pendant deux journées complètes, et notamment demain, en ce qui concerne en fait donc la partie musicale de art et mathématiques sur le campus de l'Université de Lille 1. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, auriez-vous l'amabilité de vous présenter pour nos auditeurs ? Vous êtes...
Donc, je suis François Rocher, je suis directeur de l'IREM de Lille, l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, qui organise, dans le cadre du plan académique de formation du rectorat de Lille, deux journées de colloque à destination d'un public essentiellement constitué d'enseignants du secondaire et universitaire également. Et notre thème, effectivement, cette année, c'est art et mathématiques.
Et Valerio Vassallo, donc je suis maître de conférence à l'UFR des mathématiques. J'ai suivi l'organisation de ce colloque, bon, avec d'autres professeurs de l'IREM. Et j'anime un groupe de recherche à l'intérieur de l'IREM qui signifie Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques.
Tout un beau programme. D'ailleurs, on en profite pour embrasser au passage notre cher et brillant collègue mathématicien Dominique, qui j'espère en fait tend une oreille très très concentrée en fait sur ce qu'on raconte. Et bien sûr, vous doutez bien, mes chers invités, que en fait je vais partir du général pour aller vers le particulier afin que le maximum d'auditeurs puissent être interpellé par cette belle rencontre que vous nous proposez en fait demain, donc sur le site de l'Université Lille 1, cité scientifique, je suppose, en fait, peut-être ici dans le bâtiment de mathématiques.
Exactement, oui. Ah. Les conférences plénières auront lieu dans l'amphithéâtre Archimède, et puis la multitude d'ateliers que nous avons prévus se déroulera sur le campus ici, dans ce bâtiment, dans des salles informatiques du campus, mais également aussi à Lille 3, puisque nous aurons un atelier qui sera fait à la bibliothèque de Lille 3 sur des manuscrits anciens.
Et ça tombe bien, en fait, parce que d'une part, nous faisons un clin d'œil à notre chère université de Lille 1 qui nous héberge gracieusement, devinez où, au hasard, dans le bâtiment de mathématiques, l'énorme cube avec une antenne. Eh bien, c'est le bâtiment de maths et c'est Radio Campus Lille. Cocorico, 45 ans quand même, hein, c'est une belle histoire. Et également, en fait, nos collègues de Lille 3 qui, comme vous le savez, en fait, ont établi depuis un ou deux ans un partenariat de rapprochement entre universités, donc le rapprochement entre Lille 1 et Lille 3, ça tombe bien. Et également pour les collègues de diplôme de musicologie qui se trouvent également en fait à Lille 3. Grosso modo, en fait, bravo messieurs, la boucle est bouclée, rien qu'avec en fait la présentation des bâtiments. Alors, rentrons un peu plus dans le détail. Pourquoi arts et mathématiques, et ensuite, bien sûr, on amènera à pourquoi jazz, musique indienne et mathématiques. Peut-être nous parlerez-vous en fait de la magnifique ville de Khajuraho où en fait a été inventé le zéro en mathématiques.
Non, on va pas refaire l'histoire des mathématiques. C'est que la question se pose toujours. Il y a-t-il des liens entre art et mathématiques? D'ailleurs, à partir de demain, on va lancer François, Aziz El Kassimi de l'Université de Valenciennes et moi-même un grand débat sur un site Images des mathématiques. Ça s'appelle le débat du 18 et justement, ça portera sur ces liens, cette éternelle question, lorsqu'on fait de l'art, est-ce qu'inconsciemment on fait aussi des maths ou est-ce qu'on, quand on fait des maths, inconsciemment, en se posant tout un tas de questions, on fait de l'art. Alors, les artistes qui faisaient de la musique, par exemple, mm-hmm. dans l'Antiquité, est-ce que quelque part, ils n'avaient pas une notion de nombre qui circulait dans leur esprit, un peu comme... Alors, je reprends une citation de Leibniz, hein, « La musique est une pratique cachée de l'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il compte. » Alors, c'est ce qu'il disait Leibniz. Alors, ça, on n'a pas vraiment de réponse à ces questions, mais quelque part, disons, il y a sans doute un fil transparent entre la musique, la peinture, la sculpture, tout genre d'art et les mathématiques. Maintenant, lorsque les mathématiques ils font des mathématiques au sens de la production mathématique, mais quelque part, ils ont une notion de beauté qui se pose, beauté de l'énoncé mathématique, beauté de la démonstration mathématique. Alors, sur ça, bon, il y a eu quand même un peu d'encre qui a coulé. Mais, bon, la question étant toujours d'actualité, voilà, on a voulu la proposer dans ces journées, à travers des thèmes différents et variés, donc que ce soit la littérature, qu'il soit le cinéma ou l'architecture, ou bien en interrogeant une artiste qui a fait Sylvie Pic, donc pour la nommer, qui a fait un parcours aux Beaux-Arts. Actuellement, elle est artiste à Marseille et à travers un chemin qu'il va nous raconter, elle est arrivée aux mathématiques. Par contre, bon, les autres conférenciers ils vont partir plutôt sur littérature et mathématiques, parce qu'on aura comme invité d'honneur qui va ouvrir Michel Audin, qui est membre de l'ULIPO, l'ouvroir de littérature potentielle. Donc on se rappelle du Lyonnais, on se rappelle de Raymond Queneau quand on parle de l'ULIPO, et qui va nous dire un peu quel est son chemin à travers la littérature, hein, parce que Michel Audin, c'est un mathématicien de renommée internationale, mais c'est aussi un écrivain. Après, bon, on a fait le choix de nous orienter vers l'architecture, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à un architecte, Jean-Louis Brahem, qui s'est intéressé en particulier à l'histoire de la géométrie et aux géomètres, et en particulier encore au Pentagone. Et donc, il nous a proposé déjà dans les titres un voyage en Pentagonie, parce que cette merveilleuse figure de la géométrie, elle est un peu partout. Mm-hmm. Et puis, bon, clin d'œil aussi au cinéma, parce que dans le cinéma aussi, on retrouve beaucoup de clin d'œil aux mathématiques. Alors, maintenant, on utilise le cinéma comme porte d'entrée pour les mathématiques, mm-hmm. dans des animations scientifiques. Mais aussi, il y a des films qui sont structurés souvent suivant des règles mathématiques. Alors je pense par exemple à Peter Greenaway qui a bâti pas mal de ses films sur une structure mathématique. Voilà, donc les panels, il est un peu limité, parce que bon, c'est la littérature, le cinéma, l'architecture et la peinture, mais bon, quand même, je pense, assez large pour donner aux professeurs de mathématiques, et on espère même aux professeurs d'art plastique, parce qu'on a fait savoir que ces colloques, ils pouvaient être ouverts à d'autres enseignants, pas seulement aux enseignants de mathématiques, leur ouvrir l'esprit, participer donc à la formation, parce que à la formation professionnelle, parce que ces journées sont insérées dans les plans académiques de formation, ce qu'on appelle les PAF, qui est proposé chaque année aux professeurs de mathématiques de chaque académie, et puis leur donner envie de continuer finalement à chercher toute leur vie, parce qu'un enseignant, ça doit être normalement un enseignant chercheur, c'est-à-dire à tous les niveaux, c'est-à-dire quelqu'un qui continue à se poser des questions tout le long de sa vie.
Oui, c'est sûr qu'en fait, comme le dit si bien votre présentation sur le site internet de l'IREM, pour leur, en fait, l'onglet Arrêt mathématique, d'ailleurs j'invite en fait tous nos auditrices et nos auditeurs à chercher grâce à un moteur de recherche en fait bêtement votre programme, mais plus détaillé, les résumés, les inscriptions, etc., etc., les lieux.
Oui, il suffit d'écrire IREM de Lille.
Voilà, tout bêtement, oui.
Tout simplement.
Ou ceux qui seraient très perdus et qui ont juste vu une affiche en fait en tournant sur le site de Lille 1, par exemple, en fait, arrêt mathématique. Vous tapez arrêt mathématique, vous ajoutez Lille 1, et en fait, les logarithmes de Google, pour ne pas nommer, en fait, font très très bien leur boulot là-dessus, et en fait, vous permettront de retrouver en fait le détail. En effet, plan académique de formation, comme vous le disiez vous-même, c'est vrai que quelque part, il y a bel et bien un partenariat de plus en plus évident qui se développe entre l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire et secondaire, et l'enseignement supérieur, et quelque part, ça, comme vous le dites, ça donne beaucoup d'oxygène aux enseignants du secondaire et du primaire de retrouver en fait le travail de recherche. Et puis sur le plan pédagogique, de toute façon, il est certain que les collègues enseignants qui viendraient en fait demain rencontrer Arrêt mathématique, et pas seulement en fait les enseignants de mathématiques, trouveront bien sûr en fait de nombreuses pistes pour prolonger en fait leur démarche. Quelque part, en fait, c'est de la formation continue ce que vous proposez.
Oui.
Tout
oui,
à fait, oui, ça s'inscrit dans ce cadre-là officiellement, bien sûr, puisque ces deux journées valident des heures de formation continue. Donc on a un accord avec le rectorat qui permet de mettre à disposition un certain nombre d'enseignants. Bien sûr, on aurait aimé pouvoir répondre plus largement aux demandes qui ont été très nombreuses, puisqu'on a reçu entre 250 et 300 inscriptions. Bien sûr, on est très flattés, mais de toute façon, de façon contractuelle, il y a un petit problème de logistique pour le rectorat de pouvoir libérer autant d'enseignants de mathématiques. Mais on peut se réjouir de cet intérêt qui, effectivement, montre que le sujet que nous avons choisi cette année correspond aussi à une réelle attente des enseignants. C'est vrai qu'on a basé ça sur l'intérêt ou ce qui est écrit un petit peu dans le programme des collèges notamment, de faire du lien entre les disciplines et plus spécialement entre les arts et les sciences. Et donc, notre domaine d'action se situe effectivement entre les arts et les mathématiques. Et c'est pour ça que dès demain, il y aura à peu près 200 personnes qui viendront et qui assisteront aux conférences qu'a présentées Valerio, mais aussi aux ateliers. Nous aurons à peu près une trentaine d'ateliers pendant ces deux jours, où là, effectivement, il s'agit plus d'un travail en commun sur des situations réelles, expérimentées ou en cours d'expérimentation par les animateurs de l'IREM qui ont préparé ces ateliers, pour proposer effectivement des pistes, des entrées, des regards différents sur des disciplines qu'on oppose souvent, qui historiquement ont été très très liées, le sont peut-être un peu moins actuellement pour le citoyen, mais qui permettent justement de mettre en route les élèves sur une démarche scientifique et mathématique, presque sans le savoir.
Et quelque part, en plus, ça va renforcer l'enthousiasme des mathématiciens qui se déplaceront, parce que c'est vrai que les mathématiques aujourd'hui, on en parle à tort et à travers, notamment en fait avec le rôle que jouent les mathématiques dans la finance, et une finance qui serait d'ailleurs en fait passablement dérégulée, tandis que là en fait vous rapportez avec votre, vos deux journées en fait beaucoup, beaucoup d'humanité dans les mathématiques, et je crois qu'en fait c'est le plus grand mal en fait qu'on puisse souhaiter aux mathématiques actuellement. Rentrons un peu plus dans le détail si vous le voulez bien, messieurs.
Si vous permettez, pardon. Je voulais réagir par rapport à ça, mais pas, disons, de façon polémique.
Nous juste, sommes tout oui.
Juste faire une c'est-à-dire, c'est l'utilisation qu'on fait des mathématiques. Parce que c'est vrai que beaucoup, même des penseurs que j'estime, citent cette utilisation des mathématiques dans les milieux, notamment dans les milieux de la finance, mm-hmm. et dans les milieux de l'économie, qui font du mal quelque part à notre qualité de vie, hein, qui nuisent à notre qualité de vie, parce que sur la qualité de vie, on pourrait discuter, évidemment, ça serait l'objet d'un autre débat, mais c'est plutôt l'utilisation des mathématiques qui est faite. Et effectivement, comme vous le dites bien, cet aspect plus lié au rêve, à l'imagination, ça, on souligne jamais cet aspect-là, même chez les grands penseurs. Évidemment, j'ai quelques exemples en tête que je n'ai pas envie de donner à l'antenne, mais je regrette vraiment qu'on fasse souvent appel à l'aspect, disons, mauvaise utilisation des mathématiques plutôt qu'à l'aspect utilisation du rêve, de l'imagination, de la fantaisie, de l'étonnement qui est dans cette discipline. Certes, l'image n'est pas belle. Mais l'image courante, hein, quand on parle de maths, les gens souvent disent « Ah oui, ça me souvient, ça me rappelle des mauvais souvenirs ». Mais bon, ils n'ont pas tout vu. Hein, ils n'ont pas eu peut-être les bons profs.
Oui, ou également en fait la bonne maturité au bon moment pour en fait pouvoir recevoir l'enseignement des mathématiques. C'est également un autre débat, mais il va de soi que rassurez-vous, messieurs, loin de moi l'idée de pointer d'un doigt rageur les mathématiques, car nous savons bien en France que c'est également une belle terre d'accueil pour les mathématiques, vu qu'en termes de médailles Fields, pour les auditeurs et les auditrices qui ne sont pas au courant, en fait, donc médailles Fields, pour simplifier à outrance, j'espère que vous, messieurs les enseignants chercheurs, je ne vous atteindrai pas en mal avec mes propos. On va dire que c'est un peu l'équivalent du Nobel de mathématiques, vu qu'en fait le prix Nobel n'a pas un Nobel de mathématiques.
Donc la médaille Fields. Il y a les prix Abel depuis 2003.
D'accord. Et voilà. Donc et la médaille Fields, donc comme je venais de dire. Et donc quelque part en fait justement à travers ce programme extrêmement foisonnant, on se découvre notamment lorsque les connaissances en mathématiques sont relativement limitées. Je sais de quoi je parle malheureusement.
C'est que vous en pouvez fait, venir au col, aux journées académiques. Vous êtes invité.
Merci. Je suis très sensible à l'invitation. Et donc en fait on va apprendre à réouvrir les yeux, en fait, à se rendre compte à quel point les mathématiques sont omniprésents autour de nous. C'est-à-dire qu'en fait, justement, ayant l'œil aussi bien en fait sur la technique de Radio Campus Lille que sur l'écran d'ordinateur qui me permet en fait de voir en même temps que je vous interview, messieurs, en fait, donc le programme. Vous disiez en fait à l'instant littérature et mathématiques, l'architecture et les mathématiques. Vous l'avez dit vous-même également en fait le cinéma. Mais c'est vrai qu'en fait, on va également ouvrir les yeux sur la place des mathématiques. Thématiques dans les arts plastiques avec une approche de Kandinsky, avec un détour sur les maîtres de la Renaissance, également sur les arts du Islam, les arts celtiques. Bref, en fait, c'est un peu comme si on avait une propre Renaissance personnalisée avec en fait la chance, grâce à ces différents thèmes, différentes invitations au voyage qui vous sont proposées à travers les mathématiques, de réapprendre à observer ce qui se passe autour de nous, un peu comme si en fait une ville qu'on arpente en fait depuis des mois voire des années, que tout d'un coup un jour en fait on ouvre les yeux en se disant mais au fait il y a ça devant moi et je passe tous les jours devant sans me rendre compte, et donc là en fait le ça devant moi ce sera des mathématiques. Quelle belle démarche. Et justement, en fait, quels sont également les prolongements en fait que vous pensez à ces journées-là, c'est-à-dire en fait demain et après-demain, quels sont vos espoirs, en fait, avez-vous des craintes par rapport à cela, en dehors de la météo, mais normalement il doit faire beau demain. Quels sont vos espoirs, et puis en fait, pensez-vous déjà maintenant, vous qui êtes enseignant chercheur, donc dont le boulot en fait nécessite d'avoir déjà une longueur d'avance, ne serait-ce que pour programmer les années et les les enseignements et la dispense des diplômes d'une année sur l'autre, en fait, est-ce que vous avez donc des prolongements sur les années à venir de ce beau projet ?
Des projets, on en a à foison à l'IREM, à la fois en termes de thématiques, en termes de aussi possibilités qui s'ouvrent à nous. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est justement une difficulté de propagation et d'information et de travail en collaboration avec des enseignants. Bien sûr, l'IREM est une structure qui n'a lieu d'être que par ses animateurs qui la composent. Le fait de mobiliser massivement des gens sur une thématique est pour nous très encourageant et nous invite à poursuivre notre démarche à la fois de recherche de pédagogie nouvelle, de sujets d'actualité, de travail en commun, mais aussi de nous projeter dans les années à venir sur des thématiques qui pourraient aussi rencontrer une adhésion dans le but justement de mettre les élèves, puisque nous sommes au service des enseignants et donc qui eux-mêmes sont au service des élèves, puissent construire ensemble une image un peu redorée des mathématiques. C'est-à-dire qu'à l'image de ce que vous disiez tout à l'heure sur l'émerveillement, une des clés d'entrée dans les mathématiques pourrait peut-être être l'émerveillement, justement, devant une œuvre d'art, devant un tableau, réfléchir à la composition d'un tableau, réfléchir aux problématiques de la perspective et donc rentrer dans la géométrie. Toutes ces problématiques qui paraissent un petit peu anodines et qui semblent nous entourer peuvent peut-être mettre en route des élèves et puis les faire adhérer à un enseignement qui est souvent réputé difficile, ardu, puisque à la fois strict, à la fois précis, mais aussi leur faire découvrir que cette liberté de regard, cette liberté d'analyse peut aussi mettre en route des élèves, des enseignants, parce que on a besoin de mettre en route les enseignants avant qu'ils puissent mettre en route les élèves. Et donc on a plein de projets, on est déjà dans l'organisation des journées académiques de l'an prochain, dans notre parcours de formation que nous avons proposé au rectorat. Et donc toutes ces choses-là nous rendent assez confiants sur le souhait d'un certain nombre d'enseignants d'enrichir leur enseignement et d'essayer de faire en sorte que les élèves goûtent à ce plaisir que nous avons de faire des mathématiques.
Et comment on s'organise en fait en détail les journées avant de clore en fait sur jazz, musique indienne et mathématiques. Donc en fait vous allez proposer en fait à votre public composé notamment en fait en large partie d'enseignants du secondaire et du primaire, donc des cycles, des conférences et des ateliers. Pourquoi et comment en fait ce choix d'organisation?
Ce choix d'organisation vient du fait de pouvoir permettre à la fois d'avoir un apport d'un regard distant, celui de nos invités conférenciers qui font des exposés un peu plus larges, avec un spectre assez large d'ouverture, éventuellement de recensement. Donc ça, c'est un apport que je dirais à la fois pratique, mais aussi un petit peu théorique dans la manière de procéder. C'est une conférence. Et puis, une manière très interactive où il puisse y avoir beaucoup d'échanges et de construction sous forme d'ateliers. L'atelier, donc on a prévu deux ateliers chaque après-midi, deux ateliers d'1h30. Les animateurs de l'IREM qui proposent ça, qui proposent ces séances d'atelier, ont bien sûr prévu, ont construit leurs séances, mais comptent beaucoup sur l'interactivité avec les personnes présentes pour co-construire et co-animer et coproduire, parce qu'in fine, il s'agit aussi le plus souvent de produire, notamment, on voit bien avec les titres sur l'art celtique, les arts de l'islam, il y a à la fois des découvertes, donc des apports, mais aussi des modes de construction dans lesquels on va pouvoir retrouver des mathématiques et puis se retrouver un petit peu créateur sur des bases mathématiques de figures plus ou moins géométriques, plus ou moins artistiques. Mais donc s'approprier à la fois l'apport des animateurs, mais aussi devenir créateur et constructeur en vue d'échanges avec les élèves dans les classes de retour après la pause de printemps.
Et en ce qui concerne en fait l'après-journée, comme vous allez proposer des conférences, n'est-ce pas ? Est-ce que en fait pour les personnes présentes ou les personnes en fait qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire en temps et en heure pour des raisons X ou Y, est-ce qu'il y aura en fait un prolongement ? Par exemple, en fait, on sait à l'université Lille 1 pour les étudiants et pour les adultes que en fait le site internet de l'université Lille 1 permet en fait d'avoir accès à un nombre assez impressionnant en fait de vidéos de conférences. Mmh. Donc en fait vous-même messieurs, avez-vous prévu en fait des comptes rendus de conférences, voire même capter l'image et le son à travers en fait la vidéo de ces conférences, afin que ceux qui ont envie de revoir une conférence parce que ils ont eu un moment de déconnexion peut-être pendant la conférence, un point de détail les a échappés, ils ont envie de réécouter. Ce qui nous arrive fréquemment en conférence, c'est quand même une masse d'informations assez conséquente qui vous tombe dessus, même quand vous allez à l'étude. Alors en plus, comme vous adressez notamment à des enseignants du secondaire qui ont tellement l'habitude d'être de l'autre côté en fait de la barrière, c'est-à-dire c'est eux qui animent le cours et non pas en fait en tant que, on va dire élève, hein, dans la posture en fait très 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 intéressante, en même temps toujours un peu fatigante en fait donc de l'élève. Comment ça va se passer?
Mais on a mis en place un partenariat avec l'ESM, Service d'enseignement multimédia, mm-hmm. de Lille 1, donc qui va capter les conférences, les quatre conférences du matin. Donc ça permettra dans les jours qui suivent, parce que c'est un service qui réagit très très vite.
Oui, tout à fait, ils sont très efficaces.
De trouver en ligne sur le site de Lille 1 TV les quatre conférences. Voilà, alors ça c'est une première chose. Après l'autre chose c'est qu'en effet ces journées académiques sont l'occasion aussi pour les participants de prendre coordonnées, adresses du conférencier mm-hmm. et de rester en lien avec lui indépendamment de nous. Donc l'IREM aussi c'est un moyen pour créer des liens avec nos conférenciers. Et d'autre part, vous parlez des prolongements, on a prévu des prolongements qui, là, c'est des vrais prolongements parce qu'on a déjà une collaboration avec les Palais des Beaux-Arts de Lille, mm-hmm. parce qu'on mène des recherches justement autour du regard. Et donc l'IREM a noué depuis longtemps ses partenariats avec les Palais des Beaux-Arts. Et comme ils vont intervenir des animateurs du Louvre-Lens,
oui.
On compte là démarrer un partenariat avec le Louvre-Lens. Autrement dit, le Louvre-Lens parle de peinture, parle de perspective, mais il a besoin aussi des mathématiciens. Et puis, par contre, ça ne sera pas capté, juste, je pense, les sons, les concerts. Alors, jazz, musique indienne et mathématiques.
Tout à fait, avec Cédric Gilmant, Guy Gilbert, que nous saluons bien au passage, bien sûr que tout le monde connaît, vu qu'en fait, c'est le prof de la classe de percussion jazz au Conservatoire de Lille, et Françoise Semelaz, excusez-moi de vous interrompre, c'était pour vous simplifier le travail.
C'était magnifique, parce qu'on nous pose souvent la question à l'espace culture si on invite des artistes de qualité, donc vous faites bien de préciser ça. Parce que, bien sûr, c'est des artistes de qualité qu'on invite tout le temps. Et surtout, moi, j'ai eu le plaisir, quand j'étais directeur de l'IREM en 1999, d'inviter les groupes Ondes Parallèles. Ce programme musical qui nous propose une invitation à voyager à travers divers pays et continents, dont la musique est fortement marquée par sa singularité rythmique et les sons de l'Inde. Donc, c'est pour ça que ça s'intitule Jazz, musique indienne et mathématique. Et comme c'est un concert commenté, je pense que ça sera Guy Gilbert qui va nous expliquer qu'est-ce que ce rythme spécial qui est le konokol et qui nous vient des Indes et qu'est-ce qu'il vient faire dans sa musique. Donc, où il y aura des percussions, un serpent et puis du chant.
Du chant, une chanteuse, oui.
François Semelaz, voilà.
Magnifique, c'est vrai que de toute façon, pour les auditeurs et les auditrices de Radio Campus Lille, il va de soi que quand on pense à la hauteur de son, aux cadences des accords sur une grille de jazz, en fait, le vocabulaire mathématique intervient en fait de lui-même pour en fait parler musique. Et donc, il va de soi que, messieurs, je pense qu'on ne peut qu'être enthousiaste à l'idée de votre initiative, non pas pour vous lancer des fleurs, mais tout bêtement, en fait, c'est une belle démonstration de cohérence de votre part que de marier arts et mathématiques, et en plus de clore avec ce très beau concert commenté jazz, musique indienne et mathématiques avec Cédric Gilmand, Guy Gilbert et Françoise Semelaz. Eh bien, il nous reste une trentaine de secondes pour vous remercier, messieurs. Donc, justement, c'est le cas de le dire. Un grand merci à vous, François Richer. Un grand merci à vous, Valerio Vassallo. Et on vous dit à très bientôt sur les ondes du 106,6. Nous sommes toujours, en fait, à votre entière disposition.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci bien. Jean-Richard Hutter, il est l'heure, en fait, de retourner sur la suite des programmes du 106,6. N'oubliez pas, bien sûr, de rester fidèle à l'écoute de l'ensemble de notre grille des programmes. Et à très bientôt. Salut à tous. Ciao, bye bye.
Chaque mercredi entre 16h30 et 18h sur Radio Campus, Lille 106,6 FM, vous avez rendez-vous avec Quoi de Neuf, un magazine sur l'actualité culturelle régionale. Théâtre, danse, musique, festival, les programmateurs et les artistes viennent à la rencontre de vos oreilles et vous présentent leur actualité et leurs projets. Radio Campus, une radio où on prend le temps de dire les choses.